Esprit du Dieu vivant, viens brûler nos cœurs. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Prends-les, brûle-les dans ton amour. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Ô Esprit du Dieu vivant, sois le maître en nous. Ô Esprit du Dieu vivant, sois le maître en nous. Sois le maître en nous. Nous allons continuer notre petite méditation sur la confession, le mystère de la confession. Plus exactement, nous allons continuer à rentrer dedans, à commencer à rentrer dedans. Donc tout de suite, si vous avez vos Bibles, je vous propose de prendre quelques passages de l'Ancien Testament et nous allons faire ce parcours. C'est un parcours caché, comme je vous disais. C'est un parcours secret, c'est un parcours silencieux dans l'Ancien Testament. Alors, c'est pas si facile que ça à trouver, puisque toute l'Écriture est pour le Messie. Toute l'Écriture, c'est de montrer que dans un langage d'homme, Dieu parle. Et Dieu a écrit sur des tables de pierre, sur de la matière, sur du minéral, des paroles éternelles, un verbe. Un verbe s'est incarné. Toute l'Écriture, c'est pour ça. Et chaque lettre de feu représente la très sainte Trinité, l'unité de Dieu. Alors, nous allons continuer et voyez bien que comme le mystère du Verbe qui s'est incarné, il s'est incarné pour précisément faire ce que Adam n'a pas fait, parce qu'Adam a péché, mais comme nous allons le voir, il n'a pas confessé son péché. Caïn, et puis l'humanité tout entière, ils sont tombés dans la prévarication, mais ils n'ont pas confessé. Ils n'ont pas voulu rentrer dans cette grande miséricorde que Dieu donnait et qui était là à travers ce septième et ce huitième qui étaient dans le Bereshit. Ils auraient pu l'utiliser et vivre tout de suite de la confession. Mais ils n'ont pas demandé pardon. Ils ne se sont pas convertis à l'intérieur de l'humilité de celui qui se confesse et qui dit en toute vérité ce qu'il est. Alors, à travers toute cette trame de l'Ancien Testament, on voit tout ce que Jésus va faire. Jésus va faire tout ce que l'homme n'a pas fait. Chapitre 3 de la Genèse, versets 15 et suivants. après le péché. Je ne relis pas le péché originel, on le connaît par cœur. Ça. Mais là, on regarde ce qui se passe après. C'est un désastre, le péché originel. C'est un vrai désastre. Alors. Un petit peu avant, je prends. La femme prit du fruit de l'arbre et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Verset 7. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc ils ont connu, ils ont vu en pleine lumière et en pleine connaissance leur pauvreté. La première chose de la confession que Jésus va assumer dans l'incarnation, il va épouser ce dépouillement total. Il est nu sur la croix. C'est une nudité qui, aux yeux de l'homme et de la femme à pas le péché, a un caractère d'humiliation et de ridicule que Jésus va assumer complètement. Et vous voyez bien que c'est la première conséquence du péché. C'est la première chose que Jésus vient épouser en s'incarnant, cet aspect ridicule, méprisable, de celui qui est dépouillé, tout nu, ridiculisé. C'est vrai. Si vous voyez par exemple, à un moment d'une très grande cérémonie du président de la République, il se lève de son siège, de son trône, pour donner un grand discours sur la terre, il avance d'un pas, il bute sur le tapis et il se roule par terre dans la boue, il se relève. Tout le monde rigole. Vous voyez bien ça, François Mitterrand. Il fait un grand discours, il se lève, et vite, une belle glissade, une peau de banane, et vite, il tombe par terre. C'est ce qui s'est passé pour Adam. C'est le roi. C'est quand même le roi de tout. Et tout est en lui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout est en lui. Et puis il pêche. Ridicule. Eh bien Jésus, dans son attitude de confession, qui est une attitude éternelle en face du Père, s'il s'incarne, c'est pour épouser dans l'homme ce qu'il y a de plus vrai. Et ce qu'il y a de plus vrai, c'est que l'homme, à partir du moment où il s'est séparé de Dieu, est devenu ridicule. Il est tout nu. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de Yahweh Dieu, passant de Yahweh Elohim, passant dans le jardin à la brise du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent de devant le Seigneur, de devant Yahweh Elohim, au milieu des arbres du jardin. Vous voyez bien, Adam se cache. Au lieu de se montrer tel qu'il est, au lieu de tout de suite rentrer dans sa vocation, bien sûr peut-être qu'il aurait pu être fidèle à la grâce, mais il peut aussitôt comprendre que Dieu comble tout. Mais non, il ne se sert pas de son péché pour aller plus avant dans la miséricorde de Dieu, dans les profondeurs de Dieu. Il se cache. Derrière les arbres du jardin, c'est-à-dire derrière les autres arbres, ceux qui étaient autorisés. Il se justifie. Parce que tu peux prendre de tous les arbres du jardin, ceux-là, sauf celui du mal. Alors il se cache derrière ce qu'il n'a pas fait, quoi. C'est pas de ma faute. Dans la confession, vous voyez bien, Jésus ne cherche pas devant le Père à dire c'est pas de ma faute. Jésus, le Verbe de Dieu, et Dieu, lorsqu'il prend la nature humaine, vous voyez bien, il va engendrer une attitude de confession. Il va traduire dans le cœur de l'homme ce qu'il fait dans l'amour éternel du Saint-Esprit face au Père, puisque la grande confession du Verbe en face du Père, c'est l'Esprit. Et il va traduire ça au niveau du pécheur. Donc la confession de ce qu'il y a de plus ridicule, de ce qu'il y a de plus humiliant. Vous voyez bien, on sent bien tout de suite dans nos confessions, ce qui va être un petit peu comme, qui va faire partie de la matière du sacrement, va être transformé dans la confession éternelle du Verbe de Dieu, dans le sein du Père qui produit l'Esprit Saint. C'est ça, la grande transsubstantiation de la confession. Drôle de matière. Mais on le voit tout de suite, dès les premiers versets, on le voit ça. Si on regarde un petit peu à la lumière, bien sûr, du Messie, du Rédempteur, du Verbe incarné. C'est les deux extrêmes qui sont rassemblés dans le sacrement de la confession. Il y a des extrêmes extraordinaires. Et on va continuer à lire. Je ne voudrais pas m'arrêter tout le temps parce que sinon on n'arrivera pas, on n'arrivera jamais jusqu'au bout. Alors le Seigneur Dieu appela l'homme et il lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Ah, il avoue quand même. Il avoue quand même, il s'avoue à lui-même pour commencer, que c'est dur. Il avoue que c'est dur. Mais il n'avoue pas. Il n'avoue pas ce qu'il a fait. D'ailleurs, on va voir, on va continuer. Il tourne encore autour du pot. Alors le Yahweh Elohim lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors là, ça y est, l'aveu est arrivé. On a mangé du fruit de l'arbre. Mais l'accusation est sur un autre. C'est pas de ma faute. Alors, Yahweh Elohim dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « C'est le serpent qui m'a trompé et j'en ai mangé. » Et c'est pareil. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin dit que si Adam avait dit, « C'est moi qui l'ai fait, c'est de ma faute, pardon Seigneur, il n'y aurait pas eu de péché originel. » C'est quand même fort. Et c'est vrai, qu'il y aurait eu tout de suite le Bereshit, on serait à nouveau introduit dans le Bereshit par la repentance, par la confession. On serait montré tel qu'on est. Yahweh Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux domestiques et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te meurtrira à la tête et tu la meurtriras au talon. Et aussitôt, Dieu fait la prophétie, puisqu'il n'y a pas eu de confession, qu'il y aura un confesseur. Il annonce le mystère de la Vierge. Et il annonce le mystère du Messie. C'est le commentaire des Juifs que je vous fais là, n'est-ce pas? Parce que, effectivement, la femme, il ne s'agit plus de Ève, mais il s'agit de la femme. La femme, donc, eh bien, il y aura une inimitié entre toi et elle. Et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te meurtrira à la tête et tu la blesseras au talon. Il annonce un rédempteur. C'est le fruit et l'enfant, la semence de la femme, la postérité, donc l'enfant de la femme, le fils de la femme, qui sera le confesseur et donc qui écrasera la tête du serpent. S'il écrase la tête du serpent, ça veut dire que la ruse de Satan sera déjouée. Elle sera déjouée à cause du Rédempteur. Et voyez ici, vous avez la première annonce de la rédemption. Ce qu'on a quelquefois dans les petits catéchismes pour enfants, vous savez, quand on présente les catéchismes pour enfants, il y a le péché originel, alors on voit le péché originel. Et puis, on montre une image où il y a quelqu'un qui montre que Adam et Ève qui sont très tristes, etc. Mais on leur montre la Vierge Marie avec l'enfant, comme ça, vaguement, dans l'avenir. Il y aura un Rédempteur. Et il y aura l'homme et la femme. Et puisque l'homme et la femme, dans l'unité des deux, n'a pas produit le fruit d'une confession, d'un face-à-face, d'une vérité dans l'amour, eh bien ce sera la mère et son fils. Ce sera la femme mère et l'enfant, l'innocent. Ce sera l'homme enfant et la femme mère, dans un face-à-face qui représente justement un amour nouveau. À la femme, il dit, je multiplierai tes souffrances, et spécialement celles de ta grossesse. Tu enfanteras des fils dans la douleur. Ton désir se portera vers ton mari, et il dominera sur toi. Alors ça, vous voyez, vous avez encore tout un... C'est très joli de faire une petite spiritualité, une petite psychologie de la confession de l'homme après le péché, dans la condition dans laquelle on est. Mais c'est vrai que, évidemment, c'est un mystère pour personne que la confession est quelque chose de pénible pour nous. Et on enfante le Messie, on enfante Jésus dans ce passage du samedi saint à la résurrection, avec la confession. On l'enfante, et c'est dans la douleur qu'on l'enfante. C'est trop clair, c'est ce qu'on verra peut-être au terme du parcours, à voir qu'est-ce qui se passe exactement dans la confession. Mais c'est sûr qu'il y a une transformation et c'est le Messie qui est enfanté. C'est sûr. Autant l'Eucharistie, vous voyez, encore une autre manière de voir la complémentarité extraordinaire entre le mystère de l'Eucharistie et puis le mystère de la confession. Dans le mystère de l'Eucharistie, c'est le mystère de l'époux et de l'épouse. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Tandis que le mystère de la confession, c'est un mystère de nativité. C'est un mystère de naissance. Le Rédempteur s'incarne. C'est une incarnation, c'est une nativité, c'est la mère et l'enfant. C'est la mère qui met au monde l'Église. C'est la maternité, la virginité féconde. C'est les deux grands schèmes de l'amour entre l'homme et la femme. Et c'est vrai, c'est quelque chose d'immense. De voir ça. Une autre complémentarité, qui fait que, voyez, dans le sacrement de confession, il y a quelque chose qui, à partir de la douleur, à partir de la douleur, va naître. Il y a une naissance. À partir de la douleur du tombeau, la naissance de la résurrection. À partir de la douleur du mystère de la compassion de Marie, la naissance de la Pentecôte. À partir du martyr des apôtres, la naissance de l'Église. À partir de l'holocauste final de toute l'Église, la naissance de la glorification du monde entier dans le retour du Christ. Et là, c'est pour ça que c'est dans la douleur. Et en même temps, il y a cette douleur que fait le péché. La confession nous met dans cette douleur. On accepte de rentrer dans cette douleur, de voir qu'on est séparé de notre époux. On est séparé de l'époux, on est séparé de Dieu, on est séparé de la grâce, on est séparé de Jésus. On est séparé de celui qui est plus nous-mêmes que nous-mêmes. Et il est devenu nous-mêmes plus que nous-mêmes le jour où il s'est incarné. Parce que le jour où il s'est incarné, il a confessé notre péché. Il a confessé le péché d'Adam, il a confessé le péché du Père Patrick, il a confessé le péché de tout, de Brigitte, de Stéphanie, Catherine, Marie-Pierre, tout le monde, n'est-ce pas? Et même les péchés de Maurice, tous. Mais il les a confessés comme nous, on les a jamais confessés. Il est venu uniquement pour ça. Et la vérité de mon péché, il l'a pris sur lui. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Il faut voir comment ça s'est passé. Vous voyez, vous comprenez, regardez. Il y a... Il faut voir le mouvement extraordinaire qui est demandé dans la confession. Dans la confession, il est demandé au pécheur, pour ainsi dire, on va peut-être, c'est bien de faire de temps en temps une petite parenthèse, pas faire que de la Bible, parce que sinon c'est trop énigmatique. Hein. Alors, c'est tellement caché que je suis obligé de faire un aparté à chaque fois. Mais petit à petit, on va faire des petits... On va mettre le puzzle, n'est-ce pas? On va rassembler les éléments du puzzle. Mais voyez bien qu'il nous est demandé dans le sacrement, dans le mystère déjà de la confession. Le mystère de la confession, c'est l'aspect final. Le sacrement de la confession, c'est pour nous faire rentrer dans le mystère de la confession. Le mystère de la confession, c'est le mystère de la très sainte Trinité. C'est que dans le mystère de la très sainte Trinité, le Père et le Fils ont une béatitude. C'est de se montrer face l'un à la face à l'autre, tels qu'ils sont. C'est la grande béatitude d'une personne, c'est de se montrer à celle qu'elle aime, telle qu'elle est. En pleine ouverture, en pleine connaissance, dans un état d'accueil qui est total, et dans un état de jubilation. De sorte que le mystère de la confession est d'abord, premièrement, un mystère de joie. C'est ce qu'on va voir du reste dans toute l'Écriture, et surtout dans l'Ancien Testament. On va voir que le mystère de la confession est un mystère de joie. C'est un mystère où on est emporté, dès le départ, dans cette espèce de joie. La joie d'être pécheur. La joie d'être si loin. Heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Mais voyez, on y rentre par le sacrement. On y rentre par le sacrement. Mais avant le sacrement, il faut qu'il y ait cette pré-confession, pour ainsi dire, et qui permet aux pécheurs... qui nous permet à nous de rejoindre, le péché nous avait séparés de Dieu, et puis finalement, il faut qu'on aille rejoindre, on ne veut pas se l'avouer. Nous ne nous confessons pas à nous-mêmes notre propre péché. On va laisser passer une minute, 30 secondes, une heure, 3 jours, 1 an, 10 ans, pour que des couches successives recouvrent, j'allais dire, l'état lamentable dans lequel on s'est mis, en se séparant du corps mystique de Jésus, par exemple, en se séparant du pape, en se séparant de la Vierge, en se séparant de la doctrine infaillible de l'Église, en se séparant de ce qu'il y a de plus inviolable dans les décrets éternels de la miséricorde de Dieu, parce qu'on se met au-dessus. C'est un orgueil fou. Tandis que notre petite connaissance de ce qui est bien et mal, à nous, notre petite connaissance à notre niveau, est bien plus élevée que la connaissance que donne le Christ, que donne l'Esprit Saint, dans son corps mystique, qui est immaculé, c'est la Vierge qui l'a enfanté. C'est infaillible. Mais on est au-dessus, nous. C'est évident que les péchés les plus graves, les plus lamentables, sont les péchés contre la foi. Enfin, on s'en éloigne. On se cache derrière plein d'arbres. N'est-ce pas ? En disant, c'est merveilleux, je me cache derrière plein d'arbres. Donc, la confession va faire que je me redégage, je reviens à mon péché et je me réassocie à mon péché. C'est une retrouvaille, pour ainsi dire. C'est un mystère de joie. Parce que je retrouve enfin, là, tant que je suis là, je suis dans la peur. Au fond, je suis dans l'angoisse. Et on le sait bien. Bon, mais dès que je retrouve mon péché, je suis dans la vérité. À ce moment-là, il y a un phénomène de liberté. Et au fond, il y a un double mouvement dans la pré-confession du pécheur. Cette espèce de préparation à rentrer dans ce qu'il est. Parce qu'avant de confesser ce qu'on est, il faut d'abord rentrer dans ce qu'on est. Sinon, je ne peux pas... Même la plus belle jolie fille du monde, elle peut donner, comme disait le père Emmanuel, n'est-ce pas ? La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Eh oui, c'est vrai. Et donc, si tu n'es pas, en effet, si tu n'es pas toi-même dans ce que tu es, comment vas-tu le confesser face à un autre ? Face à un autre. Face au Père. Face à Dieu. Face à l'Église. Face à ton frère. Tu ne pourras pas. Donc, il y a une pré-confession. Voyez ce double mouvement de la pré-confession. Je me rattache à mon péché, je reviens, je refais l'unité, d'une certaine manière, avec mon péché. Au fond, ce que va faire le Christ. Le Christ, lui, il fait une unité de vérité avec le péché, au lieu que ce soit une unité de ruse. C'est là où la tête du serpent est écrasée. C'est la ruse de Satan. Qui commence à être écrasé dès que je refais unité avec mon péché, tel qu'il est. C'est ça que je suis, moi. Voilà ce que je vaux. Et il y a ce double mouvement où je me réassocie à mon péché, mais en pleine connaissance, en pleine vérité, et du coup, c'est ce qui m'en sépare. Mais, remarquez bien qu'il y a un mouvement différent, et c'est ça qu'il faut comprendre, dans le mouvement de l'incarnation du Christ. Et ce qu'on va essayer de repérer à travers l'Écriture, c'est que face au péché des hommes, il se trouve que le péché des hommes, le péché de chacun d'entre nous, le Christ va s'y unir. Mais comme ça n'est pas le sien, il ne peut s'y unir qu'en rentrant au centre de ce péché. Et donc il ne peut plus s'en détacher. Et le Christ, quand il s'incarne, dans le premier moment de son incarnation, quand il s'associe à nous, il s'associe immédiatement à ce que nous sommes et il le fait en pleine connaissance. Et comme ça n'est pas le sien, il ne peut plus s'en détacher. Il s'est fait pécher pour nous. Et donc, il est la confession substantielle. Tandis que nous, c'est dans un instant, par pure miséricorde, le Père a voulu ça. C'est que notre confession, eh ben, c'est un moment, mais c'est fugace. Et c'est immédiatement lavé. Pour le Christ, c'est permanent. Et attention, c'est pas seulement notre petit péché ou nos gros péchés, notre péché énorme. C'est tous les péchés, chaque péché. Il est au cœur de chaque péché. Et il ne peut plus s'en détacher. C'est ça l'incarnation. Le mystère de l'incarnation fait que Jésus rentre au cœur de la confession. Et le Père, lorsqu'il regarde le Père, le Fils et l'Esprit Saint, le Père, en tout cas lorsqu'il va regarder le péché, à partir de l'instant de l'incarnation, la première chose qu'il voit au cœur, parce que Dieu voit toutes les choses par leur centre, la première chose qu'il voit, c'est son Fils. C'est pour ça qu'à partir du moment où Jésus s'est incarné et qu'il est devenu cette confession substantielle, à ce moment-là, tous nos péchés sont comme enveloppés par la grâce. C'est pourquoi nos péchés ne nous font plus peur à nous. Pourquoi nous pouvons y aller jusqu'au cœur de notre péché, et c'est ça qui nous en détache, c'est le Christ qui nous renvoie vers l'Esprit Saint. C'est la grande trame du mystère de la confession qui est là. C'est pour ça que pour Dieu, se faire homme, c'était héroïque. Inutile de vous le dire, n'est-ce pas? Parce que c'était évident que c'était héroïque. Parce que un ange se faire homme, ça n'aurait pas été comme ça. Mais pour Dieu, se faire homme, c'est c'est là qu'on comprend. Quoi. On comprend ce que Jésus a fait. Et c'est pas seulement à la fin de sa vie qu'il a souffert. Hein. Vous savez bien, hein, c'est dès le premier instant de sa conception. Et Marie, pendant 9 mois, elle a porté cette confession universelle. Elle a porté cette confession de tous les péchés. Pendant 9 mois, elle l'a enfantée. La femme, par sa postérité, t'écrasera la tête. Et c'est dans la souffrance. Et c'est dans la souffrance que tu enfanteras. Et ton désir te fera souffrir parce que tu n'es pas avec ton époux. C'est dans la maternité que la nouvelle Ève devra vivre ça, et pas dans la sponsalité. Vous voyez, il y a une espèce de prophétie là, qui est très belle. Parce qu'il faut savoir que s'il n'y avait pas eu le péché, Dieu ne se serait pas incarné. Le Verbe ne se serait pas fait chair. Par les voies de la maternité. Il y aurait eu une prise de toute l'humanité par des voies qui sont des voies d'amour, de complémentarité. Il n'aurait pas connu une naissance, normalement, s'il n'y avait pas eu de péché. Ça fait, vous voyez ? Alors c'est un petit peu ça qui est là. C'est le mystère de la confession apparaît dès le départ. Et c'est beau, c'est magnifique de voir ça. Il faut contempler, vous sentez que c'est très délicat. Hein. On ne peut pas rentrer dans la confession psychologiquement, c'est pas possible. psychologiquement. Bon. Et donc, ça exige une préparation. La confession. Je vous propose de lire maintenant chapitre 4, avec le péché de Caïn et d'Abel, où il y a ici quelque chose de quand même très intéressant. Chapitre 4, versets 9 et verset 15. Caïn dit à Abel, son frère, deux points, trois points de suspension. Je ne sais pas si vous avez dans votre texte marqué « Allons au champ », vous pouvez le barrer, ce n'est pas dans le texte. On ne sait pas ce que Caïn a dit à Abel. Verset 8. On ne sait pas. Caïn dit à Abel, son frère. Voilà, vous pouvez barrer, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre votre stylo, il n'y a rien. Il a dit quelque chose et on ne sait pas quoi. Parce qu'à partir du moment où le péché est entré dans le monde, la parole entre l'homme et l'homme n'est pas une parole vraie. C'est une parole derrière les arbres, derrière un buisson. On ne dit pas. Caïn dit à Abel, son frère, quelque chose, on ne sait pas quoi. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Et Yéhovah dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Là encore, devant l'évidence, Caïn ne confesse rien du tout. Pourtant, c'est gros. C'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est... Il faut sentir, je sais pas... C'est étonnant pour Dieu. Ce qu'on disait quelquefois à propos du sang sur la neige. C'est étonnant pour Dieu, ça. C'est incroyable, quoi. Il met du sang sur la neige. Et tu dis, du sang sur la neige? Ah bon? Non, je vois pas. Pourtant, le sang sur la neige, c'est gros comme une maison. C'est étonnant pour Dieu. Dieu, il comprend pas ça. Il comprend pas. Il comprend, bon, à la rigueur, qu'on fasse le... Mais qu'on ne le confesse pas. On sent le texte, c'est choquant, quoi. C'est choquant. Yéhovah dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre et ne donneras plus ses fruits, tu seras errant et fugitif sur la terre. Caïn dit à Yéhovah, « Ma peine est trop grande pour que je la puisse supporter. » Alors, non seulement cette fois-ci, il y a le refus de la confession, le refus de l'aveu, mais il y a le refus de la pénitence. « Voici que vous me chassez aujourd'hui de cette terre, et je serai caché loin de votre face. Je serai errant et fugitif sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Alors, du coup, Yéhovah dit, « Eh bien, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois. » Et Yéhovah mit un signe sur Caïn. Le Midrash dit sur son front. Afin que quiconque le rencontrerait ne le tuât pas. Et le nom qui est marqué, le signe qui est sur le front de Caïn, c'est le nom de Dieu. Dieu met son nom sur la chair du pire des pécheurs. Voilà, très belle. Vous voyez, encore une nouvelle prophétie du mystère de l'incarnation où le nom, la personne même de Dieu, s'inscrit sur le front du pécheur par excellence, de celui qui tue son frère.
par jalousie.
C'est ce que disait le père de Haut. Hein. Vous savez, le père de Haut disait, ce fameux père dominicain qui était aveugle, il dit dans une communauté, dans une famille, dans un groupe, dans une fraternité, ne laissez jamais entrer la jalousie. La jalousie, elle rentre par le murmure. C'est avec le murmure qu'on repère la jalousie. Quand je commence à murmurer, oh, celui-là. Quand je commence à dire, oh, vous savez, la communauté à côté, ça va pas bien. Ça, c'est le murmure, ça. Il faut jamais laisser entrer la jalousie. Parce que la jalousie est source d'homicide et de schisme. Elle tue le corps du Christ. Elle sépare le corps du Christ. Elle provoque la mort. La jalousie est source de fratricide. Et il était jaloux. Caïn, c'est par jalousie. Hein. Il ne regardait pas Dieu. Il ne regardait pas la confession de Dieu. Il ne regardait pas Jésus crucifié. Pas du tout. Il regardait, il louchait sur Abel. Les Midrash disent simplement que Abel et Caïn avaient une sœur qui était belle, une petite sœur. Et, bon, la petite sœur était la jumelle de Abel. Alors Abel dit, c'est ma sœur, elle est à moi. Et Caïn dit, je suis l'aîné, elle est à moi. C'est un petit Midrash, ça, mais c'est pas un petit Midrash, c'est un grand Midrash, ça. Un grand commentaire. Alors il dit, ben voyons devant Dieu à qui elle est. Mais la sœur aimait Abel. Alors Abel a fait cette offrande et n'a regardé que la volonté de Dieu. Et Caïn a fait son offrande et il regardait que le résultat de son offrande. Il regardait l'offrande. Il regardait, il comparait les deux offrandes. Abel, lui, il offrait tout à Dieu, il était prêt à tout, il donnait tout. Alors, Caïn louchait sur Abel. Quand il faisait son sacrifice, il louchait. Ça, c'est la jalousie. Si je regarde là au lieu de regarder vers Dieu. La jalousie, c'est toujours comme ça. Hein. Quand je suis jaloux. Et quand je suis jaloux, je suis malheureux. Hein. Quand on est jaloux, on est vachement malheureux. C'est dur d'être jaloux. On a envie de tuer tout le monde, on a envie de se tuer, on ne pense qu'à la mort. Je serai errant, fugitif sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. On ne pense qu'à ça, on ne pense qu'à tuer, qu'à être tué. La jalousie, c'est ça. Donc attention à la jalousie. Et donc, Dieu mit son signe sur Caïn, son nom. Alors là, je voudrais continuer et regarder directement à versets 23 et 24. Finalement, Caïn s'est marié avec la sœur jumelle d'Abel, n'est-ce pas ? Et de là, il y a eu une descendance. Il connut sa femme, elle conçut, enfanta Enoch. Et il se mit à bâtir une ville qu'il appela Enoch du nom de son fils. Vous voyez, c'est la maternité qui fait que finalement, la mort ne domine pas. C'est encore un mystère de maternité. Et encore la femme et un fils. Et ce fils aboutit de génération en génération à Lamech. Et Lamech, Ada. Et Ada, enfanta Jabel. Et le nom de son frère était Jubal, qui était le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. C'est là, de son côté, enfanta Tubal Caïn, qui forgeait toute espèce d'instruments tranchants d'airain et de fer. Et la sœur de Tubal Caïn s'appelait Noéma. Alors Lamech dit à ses femmes, Ada et Séla, entendez ma voix. Femme de Lamech, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, Lamech 70 fois 7 fois. Alors là, il faut s'arrêter un petit peu. N'est-ce pas ? Il faut s'arrêter un petit peu sur ce passage très important. Vous voyez, Caïn engendra Enoch. Enoch engendra Irad, qui engendra Maviel, qui engendra Mathusaël. Mathusaël engendra Lamech. Cette génération. Et Lamech dit, j'ai tué quelqu'un. Pour la première fois, le crime réapparaît. Et le crime réapparaît avec des instruments tranchants d'airain et de fer. La première fois que l'homme fabrique quelque chose avec du métal, donc avec une matière qui elle-même est le produit d'une fabrication, dès que l'art de l'homme et le travail de l'homme se reduplique sur lui-même, ça engendre à nouveau un meurtre. Jusque-là, on se fait une ceinture avec des feuilles, ça va, c'est bon. Mais quand l'art se retourne sur l'art pour produire, il engendre. Vous voyez, ça c'est un premier 666 qui apparaît et qui fait qu'il tue l'homme. Et en tout cas, ce qui est très très intéressant, c'est qu'Caïn sera vengé cette fois. Le nom de l'homme est encore mis sur le front de celui qui s'enferme définitivement dans un meurtre intérieur, qui est le meurtre de la vie spirituelle, l'homicide parfait. Et là, ici, c'est la vengeance au sens divin, c'est le pardon. Il ne faut jamais oublier ça. La vengeance divine, elle est là, elle est dans l'incarnation et la confession du Christ, de Dieu lui-même. C'est 70 fois cette fois. Vous lisez l'évangile de Saint Matthieu, vous connaissez par cœur ce passage, chapitre 18, verset 20. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre, s'approchant de lui, dit, Seigneur, si mon frère pèche contre moi, combien de fois lui pardonnerai-je ? Sera-ce jusqu'à sept fois ? Comme Caïn. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. Donc, vous voyez, il y a un mystère là. Il faut l'expliquer. Parce que Jésus parle très peu du pardon. Dans l'évangile, j'ai calculé combien de fois, on peut pas, j'ai pas calculé, mais j'ai été regardé, combien de fois on parle du pardon dans l'évangile. Très peu, hein. Très peu. Pardon, le pardon. Ce mot apparaît 14 fois dans l'Ancien Testament, 0 fois dans le Nouveau Testament. Pardonner apparaît 77 fois dans l'Ancien Testament et 6 fois plus 6 fois plus 6 fois dans le Nouveau Testament. 18 fois. Vous savez, la Bible, vraiment, c'est formidable. Je peux m'amuser. Petite parenthèse, c'est pour vous montrer quand même que l'Écriture me donne. Marc, la faute, le mot faute, apparaît 240 fois dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, Nouveau Testament. Le mot faute apparaît 240 fois, c'est-à-dire 6 fois 40, et 27 fois, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3, dans le Nouveau Testament. Le mot faute. Vous voyez comment les 6 du Bereshit, L'Ancien Testament, c'est le Bereshit. Les six du Bereshit sont, enveloppent intérieurement le point de vue de la repentance, des 40, la purification. Le grand chiffre de la repentance, 4, c'est-à-dire la création qui s'anéantit, la repentance, hein. La créature qui s'anéantit, 4, 0, 40, c'est toujours dans les 40 jours que la repentance va s'exprimer. Ce qu'on va voir avec le livre de l'Exode, et puis déjà le livre de la Genèse, ce qu'on va voir avec Noé, ce qu'on va voir avec la grande tentation. Puis 3 fois 3 fois 3 pour exprimer précisément que la faute est enveloppée par l'amour de Dieu, par l'amour du Christ et par l'amour de la très sainte Trinité. Le mot péché. Ah, le péché, il y a un degré de plus. De la faute au péché, il y a quelque chose d'un petit peu différent. Il y a 404 fois. 404 fois le mot 404 fois le péché. Alors 404 fois, c'est-à-dire 10 fois 40 plus 4. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, je ne vais pas vous faire la théologie de ces trucs-là, mais c'est très intéressant quand même. Et 185 fois dans le Nouveau Testament. Très bien. Je vous fais la liste et après je vous commente. Le mot pécheur, c'est-à-dire où le péché est personnalisé en acte, il apparaît 77 fois dans l'Ancien Testament et 7 fois, 7 fois, 49 fois dans le Nouveau Testament. Comme c'est curieux. C'est très curieux, ça. Le mot « se repentir ». Se repentir, le verbe se repentir, se trouve 18 fois, je vous rappelle que 18 c'est 6 plus 6 plus 6, dans 18 fois, plus 12 fois, total 30, vous voyez, la vie cachée du Christ qui est ici cachée, n'est-ce pas? Et dans le Nouveau Testament, il y est 34 fois. C'est-à-dire, je mets, si vous voulez bien, 33 plus 1. Vous commencez à deviner l'interprétation, n'est-ce pas? Bon. Le repentir, vous voyez? C'est très joli, ça. Bon, vous avez ensuite pardonner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pardonner. Le verbe pardonner se trouve 77 fois, exactement le même que dans le nombre de fois où il y a pécheur, dans l'Ancien Testament. Et il se trouve à nouveau 18 fois, pardon, 18 fois là, 18 fois dans le Nouveau Testament. Je crois que c'est bien, hein? Bon, je crois que j'en ai fini avec ça. C'est quand même curieux, hein? Je sais pas, vous sentez qu'il y a quelque chose ou pas? Ou bien il faut que je vous le commente, ça? Vous n'avez pas besoin que je vous le commente, si? Bon, on vient de voir dans le texte de Caïn et d'Abel que le péché de Caïn, du fratricide, est marqué par le chiffre 7, c'est-à-dire le nom de Dieu est donné sur le front de l'homme en pleine participation. 7, c'est la totalité. Donc le nom de Dieu est associé d'une manière totale. plénière aux pécheurs. Vous voyez, c'est ici une prophétie du mystère de la rédemption dans le Verbe incarné. Puisque Dieu s'associe au péché, et de manière parfaite. 77 fois. Ah, 70. Alors c'est ce qu'on va voir. Hein. On va voir que le chiffre 70 représente les nations. Parce que du sein de Noé, il va sortir un certain nombre de nations. Il va sortir Japheth et Cam et Japheth. Et de là, il va sortir 70 peuples. Et 70, ça représente l'ensemble de la communauté humaine. Donc, le point de vue du pardon implique que lorsqu'un pécheur se repentit, il y a nécessairement toute la communauté humaine qui est dans ce repentir. Sinon, ce n'est pas un repentir. Le pécheur, lorsqu'il pêche, il met toute la communauté humaine dans un état de péché. Et de sorte que le pardon implique la réintégration par le repentir de toute la communauté humaine. Et ceci se fait par le repentir. Donc par le point de vue du 12, qui représente l'Église apostolique, c'est l'Église qui réintroduit le pécheur dans le pardon. Qui réintroduit toute l'humanité pécheresse dans le pardon. 70 fois, 7 fois. Le pardon du côté du Nouveau Testament, c'est Dieu qui le réalise. C'est Dieu, la très sainte Trinité, qui reprend le Bereshit avec tout l'aspect de l'amour à partir duquel toute la création a été fabriquée, dans l'image de Dieu, 6 plus 6 plus 6 fois, 18 fois, de sorte que c'est Dieu et l'Église, c'est la très sainte Trinité et l'Église qui introduisent le pécheur dans le pardon. Là, vous saisissez mieux peut-être. Vous n'avez pas vu l'élasticité des chiffres, mais voyez, c'est quand même très net que c'est ça. Mais voyez, vous avez un jeu extraordinaire. Et tout ça, c'est pour vous montrer simplement qu'il y a une trame dans toute la Bible, il n'y a pas un mot de trop. On ne verra jamais 76 fois. Hein. C'est vrai, ça aurait pu être 76 fois, ça aurait pu être, je ne sais pas moi, au lieu d'être 49, cette fois, ça aurait pu être... Non, mais c'est vrai. Bon, très bien, continuons. Donc vous voyez bien que ici derrière ce 77 fois, 7 fois, on va retrouver quelque chose que Jésus indique. Jésus indique là ici que toute l'Écriture montre que c'est toute l'humanité qui va être prise en lui là, à travers la mort d'un innocent. Et cette innocence sera lui. 70 fois, 7 fois. C'est en effet toute l'humanité, 70 fois, qui sera reprise dans le meurtre du nouvel innocent, du nouvel Abel. C'est pour ça que c'est 70 fois, 7 fois. Non seulement tu dois pardonner 7 fois, c'est-à-dire tu dois pardonner réellement, voilà ce qu'il dit à Pierre, non seulement tu dois pardonner à ton prochain, complètement, mais en plus tu dois rentrer dans le mystère de la confession. Parce que le mystère de la confession se fait dans la mort du Christ, qui confesse éternellement le péché et qui confesse qu'il est la gloire du Père. Et donc, à Pierre, il dit, non seulement tu dois pardonner et te faire pardonner par ton prochain, mais en plus tu dois rentrer dans le mystère de la confession. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas l'interpréter autrement. Hein. C'est impossible. Et là, vous l'avez ici, vous voyez. Caïn sera vengé 7 fois et la Mecque 70 fois, 7 fois. 77 fois, ça dépend des traductions. Bon, je vous propose de lire maintenant un autre passage. Vous voyez que c'est pas si facile de décrypter, mais on va essayer de continuer. C'est pour vous montrer que tout est dans l'Ancien Testament. C'est fabuleux de lire un mystère comme ça de Jésus à travers tout l'Ancien Testament. C'est vrai, c'est très beau. Et ça vaut la peine, c'est vrai. Et donc, c'est le péché cette fois-ci collectif. Le péché collectif de l'homme dans la prévarication et la volupté. Alors, Genèse chapitre 6, verset 5. Yahweh vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur, et il dit, « J'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux animaux domestiques, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, parce que je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Ah, alors, au passage, je vous signale que Noé, ça s'écrit comme ça, en hébreu, enfin, c'est pas dans ce sens-là, ni avec les lettres grecques, mais c'est Nun He. Et Noé trouva grâce, la grâce, ça s'écrit comme ça, H-N. Hé, Noun. Je signale ça. Parce que Noé, c'est la première fois où on va avoir une rédemption. Donc c'est le premier lieu, le passage de Noé, où il va y avoir un salut. Alors, jusqu'à maintenant, on avait vu, il va y avoir Noé, c'est à partir de Noé qu'il y a un changement de données. Jusque-là, il y avait le péché originel, il y a eu le péché d'Adam. Il y a eu le péché et la meurtrissure et l'homicide intérieur de l'homme. Puis, il va y avoir le péché collectif. Voilà les quatre dimensions du péché. Et puis, Noé fait passer, par le point de vue de l'arche, il fait passer et il y a une nouvelle alliance. Il va y avoir la première alliance, le premier salut. Et lui, il est sauvé. Et il sauve le monde en faisant ça. Il sauve l'animal. Il sauve la vie. Il sauve le projet de la miséricorde de Dieu. Tout est sauvé. Donc, Noé, voyez. Donc, Nun, He. He, Nun. Noé trouva grâce auprès de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, Nun? Nun, ça veut dire celui... Le Nun, par exemple, on dit Josué, fils de Nun. Josué... Fils de Noun, parce que Josué, c'est celui qui a fait durer éternellement ce que Moïse avait commencé. Moïse n'a pas pénétré sur la terre promise, et Josué, lui, a permis. C'est prophétique, parce qu'en fait, c'est Jésus, parce que José, c'est Yeshua. Hein. C'est le nom de Josué, nous on dit Jésus, dans les traductions on dit Jésus et Josué, mais en fait, on devrait traduire exactement pareil, c'est le même prénom. Donc Josué, Yeshua, fils de Nun, ça veut dire que c'est lui qui fait durer, qui fait perpétuer ce que Moïse a fait. Moïse a introduit la Torah, l'impératif de l'amour de Dieu et du prochain. Eh bien, c'est Jésus qui, dans la terre promise, le fait. La terre promise, c'est le ciel. Hein. C'est le cœur de Jésus ressuscité. Eh bien, c'est Jésus qui le fait durer éternellement. Et le hé, ça représente le point de vue du regard, de la contemplation. Ça, c'est les petits termes, alors. Donc, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi les hommes de son temps. Noé marchait avec Dieu. Pour trois personnes, à peu près. Et étant donné le volume de l'arche, on aurait pu mettre 800 000 personnes dedans. C'est quand même une arche qui est grande. Oui, parce que c'est le critère qu'on prend. On prend 2/3 d'un mètre cube pour que l'homme puisse faire son mouvement, ça, être libre. 800 000. C'est une arche, c'était immense cette arche. C'était énorme. Et puis alors, il y a beaucoup de choses dans l'arche. Et ce qu'il y a, c'est que Dieu a demandé à Noé de construire cette arche. Bon, je peux vous le lire un petit peu, mais il dit à Noé, bon, tu vas construire cette arche. La fin de toute chair est venue devant moi, parce que la terre est pleine de violence à cause des hommes. Fais-toi une arche de bois résineux, tu la feras composer de cellules, et tu l'enduiras, tu la couvriras de bitume au dedans et au dehors. Ce terme couvrir de bitume, ça s'écrit kafar. C'est le verbe kafar, enduire. Et le verbe enduire, c'est le verbe pardonner. Pour la première fois apparaît le verbe pardonner. Dans l'écriture, c'est ici. Kafar. Kafar, c'est le cas, si vous voulez. Bon. On va mettre le F, le R. Kapar, pardon. Autant pour moi. Ça me disait. Kapar. C'est pas le F, c'est un P. K-P-R. Alors, laissez-moi vous dire quand même quelles sont les significations de ces lettres. Le kaf, la signification littérale pour les rabbins de cette lettre. Vous savez, chaque lettre a une signification littérale. La signification, c'est l'intersubjectivité, le face-à-face, dans le dialogue et la douceur. C'est l'interface qui se reproduit. On est face-à-face sans plus rien entre nous. C'est la confession, si vous voulez. C'est l'ouverture totale, mais dans la douceur. C'est ce que symbolise le kaf. Je vous lis intégralement ce que dit le Midrash rabbinique là-dessus. Le kaf représente l'intersubjectivité, le dialogue dans la douceur. Il implique que chacun soit dans une attitude d'obéir à l'autre. C'est pourquoi Moïse voit Dieu lui demander d'ôter ses sandales, car on obéit s'il y a un caillou sous la paume du pied. Ça, c'est les petits midrash, parce que ça prouve certainement caillou, ça doit s'écrire avec un kaf, c'est à cause de ça qu'il y a ces petits rapprochements qui ne seront pas du tout rendus en français. Mais vous voyez bien que le kaf, c'est l'intersubjectivité. Le fait, c'est la lettre de l'intériorité. Donc c'est un dialogue d'intersubjectivité en pleine ouverture dans une très grande et la plus grande intériorité qui soit. Et le resh, eh bien, c'est, je vous lis, le resh est la lettre qui exprime dans la langue hébraïque le point de vue du principe de la tête, de l'éperon ou du promontoire. C'est la lettre mystique de la présence primordiale. Elle nous remet en présence du principe. Elle nous remet dans la tête de tout. Donc, dans le Christ et dans le Père. C'est joli le pardon, vous voyez. Vous avez donc une espèce d'ouverture qui nous fait plonger dans le point de vue le plus intérieur du péché et du coup dans le point de vue le plus intérieur de la présence du Christ et de la présence du Père. Et c'est comme ça qu'on peut lire Kapar. Et Kapar, tu enduis, tu recouvres l'arche. Tu recouvres l'arche de l'intérieur et de l'extérieur. Pour que l'eau ne pénètre pas. Ça veut dire que tu caches le péché. Le péché est entièrement caché. Il n'y a plus rien qui passe. Non seulement il est devenu invisible, mais en plus il sert. Il sert à porter sur une nouvelle terre, sur une terre nouvelle, le mont Ararat, sur une nouvelle terre, tout le vivant. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Parce que les eaux montent et du coup c'est une nouvelle vie. L'eau représente la vie. Alors, quel est ce goudron bitume noir? On voit souvent dans l'écriture qu'il y a des puits de bitume dans l'histoire d'Abraham avec Abimélec, par exemple. C'est curieux, ces histoires de bitume, ces puits de bitume. Parce que Jésus, lui, prend avec la Samaritaine les puits avec l'eau vive. Et puis, il faut faire le rapprochement. Quand il parle avec la Samaritaine, par exemple, c'est évidemment le dialogue avec la Vierge, c'est le dialogue avec l'Église, c'est le dialogue avec la femme. Et le rapprochement, c'est Abraham avec ses puits de bitume. Le bitume, c'est le Christ qui s'est fait pécher pour nous et qui enduit tout. L'intérieur du péché en nous et l'extérieur du péché en nous. Et il ne nous reste plus qu'à proclamer l'intermédiaire, si vous voulez. Oui, parce que quand on fait l'aveu du péché, il vaut mieux pas trop décrire l'extérieur du péché. Ça pourrait donner de mauvaises idées au confesseur. Et il ne faut pas trop décrire non plus l'intérieur du péché, parce que vous n'avez pas accès à la substance de votre péché. C'est pourtant vous qui l'avez fait. Mais c'est impossible. Parce que le péché vous a mis en dehors d'une compréhension substantielle. Il vous a aveuglé un petit peu plus. Il vous a mis en dehors de l'amour, du coup. Vous ne pouvez plus saisir la substance de votre péché. Donc Jésus enduit, voyez, le pardon, il induit, voyez, un nouvel aspect qui apparaît ici avec le kappar. Voyez, le kappar, c'est quelque chose de très curieux, qu'on va retrouver d'ailleurs dans tous les instruments. Je ne sais pas si on aura le temps dans l'Ancien Testament. Vous avez le propitiatoire, par exemple. Le propitiatoire, c'est le caporet, n'est-ce pas? On rajoute un tête, c'est tout. Caporette. Propitiateur. Vous savez, on construit le Saint des Saints, mais ça, il faudra qu'on le fasse, parce qu'il faut quand même que je vous fasse ça. Ça fait partie de la culture, mais en même temps, c'est important. Vous savez, c'est à partir de la Bible qu'on comprend tout. Donc, même si c'est des détails, c'est pas des détails qui sont inimportants. Vous savez, la liturgie d'Israël, etc. C'est à travers ça, c'est prophétique. Et la dimension prophétique de notre foi, de notre confession, pour la confession, c'est capital, parce que la dimension prophétique, elle donne la lumière. C'est la dimension prophétique qui donne la lumière. L'évangile n'est pas prophétique. L'évangile est royal. L'évangile, on est directement avec Jésus. Donc, c'est pas prophétique. Alors, la lumière est donnée beaucoup plus dans l'Ancien Testament si on veut comprendre les mystères que nous vivons dans la sainteté du Christ, dans le cœur de Jésus. C'est pour ça, il faut aimer l'Ancien Testament. Il faut l'aimer. Et puis, il faut essayer de le comprendre. Il faut aimer. Alors, caporet. Le caporet, c'est le propitiatoire, le lieu où dans le temple, on fait les sacrifices du pardon. Et les sacrifices de l'Holocauste. Et justement, on va regarder ça un petit peu. Comment est-ce que dans l'Ancien Testament, on fait, je ne sais pas si j'ai le temps, il faut que quelqu'un me fasse comme ça, jusqu'à 4 heures. Donc, retenons cet épisode de Noé où apparaît le pardon. Puis, aussitôt après, le déluge. Verset chapitre 8, verset 20. Voilà. Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi, toutes les bêtes de toute chair qui sont avec toi, oiseaux, animaux domestiques et tous les reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir avec toi. Vous voyez, donc c'est tout l'aspect de la création qu'on avait vu tout à l'heure. Avec tout ce que ça implique. Qu'il se répande sur la terre, qu'il soit fécond et multiplie sur la terre. Noé sortit, lui, ses fils, sa femme, les femmes de ses fils. Toutes les bêtes, tous les reptiles et tous les oiseaux et tous les êtres qui se meuvent sur la terre selon leur espèce sortirent de l'arche. Alors Noé, verset 20, construit un autel au Seigneur. Et ayant pris de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. Ah, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit caporette. Il y a eu le capor, et du coup, il y a le caporette. Il va y avoir le premier holocauste, le premier sacrifice. Le premier sacrifice d'animal pur. C'est toujours des animaux purs. Et donc c'est l'aspect victimal, le châtiment. Voyez tout de suite, c'est beau. Vous avez le pardon et le châtiment. C'est Jésus qui est le vivant pur, par excellence, qui sera la victime. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Holocauste, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire monter. C'est l'ascension, si vous voulez. Jésus monte quand tout est brûlé de manière victimale. J'allais dire quand le péché le fait exploser complètement. L'anéantissement est total. La victime brûle tout. Et c'est une victime d'amour. Hein. Alors ça monte. Et il y a cette mutation que produit le point de vue de la résurrection. Vous voyez ? Alors ici, le nouveau. Alors là, c'est la première fois qu'apparaît le point de vue de l'Holocauste. Et l'Holocauste montre ceci. C'est que si le pardon est là, il engendre le point de vue de l'Holocauste. L'Holocauste est impensable si ce n'est pas dans l'amour. L'Holocauste, c'est un feu. C'est le feu. Holocausta. En grec. Holocausta. Ça vient du grec. Holocausta. Costa, la soude caustique. C'est le verbe brûler avec du feu. Et holo, c'est de là que vient holistique, par exemple. Ça veut dire tout. Tout est brûlé. Et il n'y a que l'amour qui brûle tout. L'Holocauste, c'est l'amour qui brûle tout. Et tout est complètement brûlé. C'est l'incendie. L'incendie. Tout est brûlé. Tout. Tout est brûlé. L'amour enflamme tout. Et à partir de ce moment-là, on comprend immédiatement que le pardon produit cette espèce d'amour qui se sert du péché pour aimer. Mais pour aimer non seulement Dieu comme ça directement, mais pour aimer en emportant dans ce feu toute la création. Et c'est ce qu'on appelle la contrition. La contrition, c'est le péché qui sert comme combustible pour que l'amour de Dieu emporte tout ce qui existe autour de nous. Et la contrition fait partie essentielle du mystère de la confession. C'est bien que Jésus, et puis l'Église de Jésus, dira que c'est la matière du sacrement de pénitence. Vous pouvez confesser tous vos péchés. Si vous n'avez aucune contrition, il n'y a pas de sacrement. Aucune contrition. Moi, je ne regrette rien, je suis enchanté d'avoir fait mon truc. Enchanté. J'ai gagné au loto en plus, alors. J'ai gagné le premier prix, vous comprenez ? J'ai gagné le premier prix, donc je suis enchanté. Ben non, d'accord, j'ai fait une chose horrible, mais j'ai gagné le premier prix, donc ça va. Comprenez ? Mais oui, c'est ça. Mais Satan, c'est ça qu'il fait. Il nous fait faire des trucs pour qu'on soit le premier. Et Jésus, lui, il vient pour rien faire du tout. Il vient pour être le dernier. C'est merveilleux, ça. Mais si on est rejeté, mais c'est merveilleux. C'est génial. Comment ça? Tu t'es donné à Marie et tu t'étonnes? Tu t'es donné à l'Immaculée et tu t'étonnes que tu sois le dernier? Enfin, mais t'as rien compris. Marie, elle enfante des derniers. Elle n'enfante que les derniers, les derniers, les derniers, les derniers. Dis tiens, je vais en enfanter un autre encore plus nul. Ah super. Alors, c'est à celui qui sera le plus nul.
celui qui sera le moins, celui qui aura le moins de, donc capable, oui. C'est transformé en bitume. C'est fou le bitume. Vous voyez le bitume, c'est ce qui brûle, hein. Ça brûle le bitume facilement. C'est le charbon, quoi. C'est le charbon des Juifs, au fond. Mais en plus, c'est liquide. C'est inconsistant. C'est pas mal. Hein. C'est vrai, c'est fait pour être brûlé. Essaye de faire brûler du granit ou du marbre de Carrare. Tiens, cours toujours. Bah, c'est pas mal, t'as vu? Hein? Moi, je veux structurer mon truc, attention. Je voudrais peut-être un petit peu en jeter, quoi. Non, non, nous on veut rien jeter du tout. Nous on veut être jeté à la poubelle, c'est tout. On est dans la poubelle de l'histoire, poubelle de l'humanité, poubelle du monde. Même aux yeux de Dieu, nous ne sommes rien. Et on le sait très bien. Nous ne sommes rien du tout. Et Jésus, lui, sait que devant le Père, il n'est rien du tout. Il le sait. Il sait que lui et nous ne sommes rien. Et il le confesse. Il montre ce qu'il est. Voilà ce que je vois. Je ne vois rien. Et il le dit en pleine vérité. Parce que c'est vrai, il s'est vraiment fait pécher pour nous. Il a vraiment pris ça. C'est une manière d'embrasser Jésus. Mais ça, de la confession, qui est beaucoup plus authentique, d'une certaine manière, de notre côté à nous, qu'à travers le sacrement de l'Eucharistie. Ici, dans le sacrement de l'Eucharistie. Eucharistie, le don et l'accueil. J'accueille le don du Christ. Dans le sacrement de la confession, de la pénitence. C'est le Christ, c'est Dieu le Père qui accueille le péché. La seule chose que j'ai à donner, qui soit de moi-même, c'est mon péché. C'est la seule chose. Du côté subjectif, là où j'embrasse le Christ, c'est plus du côté de la pénitence, du côté subjectif. Du côté objectif, c'est plus dans l'Eucharistie, que je me laisse embrasser par lui. Je le reçois. Il se donne entièrement à moi. Mais c'est moi qui l'embrasse du côté. Vous voyez, il y a un côté objectif dans tous les sacrements, un côté subjectif. Le don personnel du Christ, il est dans l'Eucharistie. Et le don personnel du pécheur, il est dans la confession. Donc du côté de la personne, l'amour est plus fort au niveau sacramentel dans le sacrement de la confession. Du côté personnel, de notre côté à nous. Mais du côté de l'objectivité, il est bien évident que le don personnel du Christ est plus fort que tout. Donc il y a un côté d'objectivité et de subjectivité. Mais dans l'amour, est-ce que c'est la communion des personnes qui est la plus importante, ou est-ce que c'est l'objectivité de l'amour qui est la plus importante? Impossible de répondre. Qu'est-ce qui est le plus important? La première procession de la très sainte Trinité, je suis le pain de vie. ou la deuxième procession de la très sainte Trinité. L'Esprit Saint confesse face au Père que dans le cœur ouvert du Christ ressuscité, il est l'amour. C'est Dieu tout entier à chaque fois. Alors, nous allons passer du coup à un passage un tout petit peu plus loin, au chapitre 15. Verset 9. Avec Abraham, pour la première fois, donc, Dieu fait alliance avec Noé. La deuxième alliance, c'est l'alliance avec Abraham. Et donc, à chaque fois, bien sûr, le pardon nous relie substantiellement à Dieu. Alors, ce serait très, très beau et on va commencer et puis on continuera après. Il faut qu'on repère, je vous signale simplement au passage, il faudrait qu'on le note quelque part, n'est-ce pas ? Je vais le noter moi-même parce qu'on fait la recherche ensemble en ce moment. J'ai pas trop travaillé la question, on cherche ensemble, hein, vous voyez, je lis ça avec vous. Hein. Donc, je note, n'est-ce pas ? Première alliance, Noé. Alors, la deuxième alliance, Abraham. Abraham. Puis on verra la suivante après. Chapitre 15, verset 9. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham en vision. Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, Seigneur mon Dieu, que me donnerez-vous ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Un esclave, un serviteur. Et Abraham dit, voici, vous ne m'avez pas donné de postérité, et un homme attaché à ma maison sera mon héritier. Alors la parole de Dieu lui fut adressée en ces termes, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Lève ton regard vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur le lui imputa à justice. Ça veut dire que c'est l'alliance avec Abraham, parce que dès que Dieu impute à justice, ça veut dire il lui donne la grâce sanctifiante. Il a eu la foi. Et du coup, il a reçu la grâce sanctifiante. Il a été baptisé par la foi. Première alliance avec Abraham. Et du coup, il promet effectivement qu'il lui donnera le pays de la terre promise. Regarde ce pays, je te le donnerai. Et comment connaîtrai-je que je le posséderai ? Alors il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham lui amena tous ses animaux et les ayant partagés par le milieu, il mit chaque moitié vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Et comme le soleil se couchait, un profond sommeil, torpeur, tomba sur Abraham. Une terreur, une obscurité profonde tombèrent sur lui. Et lorsque le soleil fut couché, verset 17, et qu'une profonde obscurité fut venue, voici un four fumant. Et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Et en ce jour-là, le Seigneur Dieu fit alliance avec Abraham, en disant, je donne à ta postérité ce pays, la terre promise. La terre promise, ça représente le Christ. Hein. La terre promise, c'est le Messie. Hein. Ça a toujours, hein. Faut toujours se rappeler, la terre promise, c'est le corps du Christ. C'est le cœur de Jésus.
c'est notre terre promise. C'est le cœur de Jésus. C'est ça notre terre promise. C'est l'amour du Messie. C'est vrai pour les rabbins dans l'Ancien Testament, c'est vrai pour la tradition des Midrash, et c'est vrai pour nous. C'est comme ça que les pères de l'Église interprètent tout l'Ancien Testament à propos de la terre promise. Ça, j'espère que pour vous, c'est pas nouveau. En tout cas, vous voyez bien, que il y a à nouveau un sacrifice et un holocauste. Un holocauste d'animaux. Une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, un jeune pigeon. Comme c'est curieux ça. C'est quand même pas mal. Hein. Vous voyez ? Alors, une génisse de 3 ans pour montrer l'aspect victimal. Toujours, la génisse montrera toujours l'aspect victimal. La chèvre, pour montrer que c'est toujours la maternité. Et le bélier, pour représenter justement le point de vue du Rédempteur. Le bélier, c'est le Rédempteur, c'est le chef. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs, parce que le bélier revient tout le temps. C'est très important, cette histoire du bélier. Je vous signale, si un jour vous avez une fiche amusante à faire, vous prenez à chaque fois le bélier dans la Bible. C'est vrai. Où est l'agneau pour l'Holocauste ? C'est ce qu'on va lire dans le sacrifice d'Isaac. Où est l'agneau pour l'Holocauste ? Où est l'agneau ? Il y a bien le feu, il y a bien le couteau pour le sacrifice, mais où est l'agneau ? Dieu est pourvoit, mon fils. Et il met un bélier à la place. C'est pas un agneau ? Le bélier. Eh bien, on partage en deux. Et on ne partage pas la tourterelle et le jeune pigeon. C'est un petit peu normal parce que le bélier et l'agneau, vous voyez, il y a une dialectique entre le bélier et l'agneau. Et vous voyez, quand on présente un enfant au temple à Jérusalem, comme Marie a fait pour Jésus, eh bien, normalement, ils doivent présenter pour la purification de la femme, pour Israël et pour l'enfant. C'est pour ça qu'il y a trois. Ici, vous voyez, il y a trois qui seront partagés. Et pour manifester ça, on le voit bien dans le Nouveau Testament, donc elle présente, eh bien, ils vont acheter deux tourterelles. Ou deux pigeons, c'est marqué. Ou deux pigeons, voilà, c'est curieux ça. Il ne précise pas, quoi. Ça veut dire Saint-Luc, c'est pas. Mais en réalité, c'est très joli. C'est l'offrande que ceux qui avaient été très pauvres devaient offrir s'ils ne pouvaient pas offrir un agneau. Et donc, la tourterelle, le pigeon ou l'agneau, c'est pareil. C'est pour ça que le bélier est partagé en deux, mais pas la tourterelle et pas le pigeon. Vous voyez bien ça. Mais quand les trois sont partagés, Dieu prend la torpeur d'Abraham, qui est le premier père de la grâce, le premier père des bénédictions, la grande paternité, la fameuse paternité qui commence à se réintégrer à partir de la première alliance, il y a un fruit. C'est cette paternité dans la gloire, cette paternité dans la victoire de l'amour de Dieu, dans le corps humain, dans le cœur humain, dans l'humanité. C'est Abraham. Et du coup, il va y avoir cet holocauste, et cet holocauste va se faire dans la torpeur. Abraham va montrer simplement, manifester que Jésus est le Père. Il va y avoir une recréation. Abraham, c'est le Père, hein. C'est le premier Père, c'est le premier patriarche. Et du coup, il va y avoir trois grands patriarches, vous savez bien, Abraham, Isaac et Jacob. Vous avez la grande, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est dans la torpeur de cette paternité, la torpeur de la paternité représente bien entendu la torpeur de Jésus, qui est le Père du monde entier, et le Père de chaque être humain, sur la croix, dans la torpeur, c'est-à-dire il est déjà mort, dans l'extase de son amour. La torpeur, c'est un sommeil mystérieux, torpeur, tardéma en hébreu, la tardéma. Et la tardéma, ça se traduit par, comme ça, une espèce de sommeil, de mort mystérieuse. Très mystérieuse. Et c'est de cette mort d'amour, c'est une mort qui est liée, la tardéma d'Adam est liée à la présence physique de l'amour éternel de Dieu, qui fait mourir. Et de là sort, vous le savez bien, l'époux et l'épouse, Ish, Isha. C'est la première fois qu'on a tardéma dans l'écriture. Mais ici, la deuxième fois qu'elle réapparaît après le péché, c'est ici, avec Abraham. Il y avait eu la promesse du Rédempteur par la maternité, et il y a le préambule par la paternité. Ça, c'est très joli. Et du coup, dans cette torpeur, un four fumant et un brandon de feu, une flamme de feu vient passer. Vous voyez, les animaux sont coupés en deux, coupés en deux, coupés en deux, et entre, ouf, 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 la flamme, le feu. Le feu. Le feu de l'amour éternel, le feu du Saint-Esprit, le feu de la Pentecôte, le feu de la résurrection, le feu de la Très-Sainte Trinité. C'est pour ça qu'il y en a trois. Qui rassemble ce qui est divisé, sans supprimer la division, mais en l'utilisant. De sorte que l'unité nouvelle est bien plus grande que s'il n'y avait pas eu de division. C'est une recréation. Et la première chose, c'est pour ça qu'il y a trois, la première chose qui est coupée en deux, c'est le cœur du Christ. Il ne faut jamais l'oublier. Mais il y a trois. Parce que c'est toujours un et trois. Et donc le cœur de Marie est coupé en deux. Et le cœur de l'Église, le cœur donc de chacun d'entre nous, est coupé en deux. Et notre cœur saigne. Et si notre cœur ne saigne pas, haro sur nous, attention. C'est qu'on n'est pas rentré dans l'Église. Si ton cœur ne saigne pas, c'est que tu n'es pas encore rentré dans l'Église. Donc, vous voyez ici cette première alliance qui est en fait la deuxième, après Noé, Abraham. Nous allons voir la prochaine fois, je ne sais pas quand c'est d'ailleurs, nous allons voir la prochaine fois la deuxième alliance avec Abraham et la troisième alliance dans l'Écriture qui est celle avec Isaac. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.